Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Alors, on va prendre d'abord le livre des Lamentations de Jérémie. Livre de Lamentations de Jérémie au chapitre 1er. Et nous avons devant les yeux, c'est en quelque sorte une prière de supplication, nous pourrions peut-être dire les choses ainsi. Et c'est le prophète qui est inspiré, mais qui parle à la place de quelqu'un d'autre qui n'est pas encore venu, quelqu'un qui va venir, et qui tout simplement annonce les souffrances du Christ lorsque le temps de Dieu viendra et que nous retrouvons naturellement dans l'Évangile. Alors, Lamentation de Jérémie, chapitre 1er, verset 12. Et le prophète dit ceci: je m'adresse à vous tous qui passez ici, regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur, à celle dont j'ai été frappé. Voilà, nous allons simplement nous arrêter sur ce passage où les hommes sont interpellés à prendre en considération ce que Jésus accomplira, ce que Jésus a accompli et dont nous sommes tous bénéficiaires, parce que quelque part le royaume de Dieu est en son cœur, l'annonce du salut, de la vie éternelle est contenue à travers finalement ce passage que je voudrais relire encore parce que me semble-t-il il est très fort. Et je rappelle, je m'adresse à vous tous qui passez ici, regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur, à celle dont j'ai été frappé. Alors, pour comprendre et certainement donner une explication à ce passage, nous allons justement ouvrir l'évangile de Matthieu et voir de quelle nature est l'intensité de cette souffrance et pourquoi cette souffrance, comment Jésus à assumer cette souffrance. Alors nous allons le lire dans Matthieu chapitre 27, verset 33. Et nous allons aller à la redécouverte du sens et du but, de la passion du Christ, on dit cela comme ça, Alors, verset 33, « Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne », ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. On va arriver au verset 45. « Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre, et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Eli. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « laisse, voyons si Eli viendra le sauver ». Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Voilà, alors nous l'avons tous lu, probablement des dizaines, voire davantage, des dizaines de fois, ce passage de la passion de la mort de Jésus. Alors, il y a toujours eu des gens dans l'histoire de l'humanité qui ont vécu le martyre. Certains pour des raisons diverses, politiques, peut-être pour acquérir ou recouvrer leur liberté, d'autres pour des convictions qui pouvaient donner raison au prix à payer. Ça n'a jamais été quelque chose de gratuit, le sacrifice, parce que derrière il y a toujours quelque chose de très fort. Mais nous assistons justement avec ce texte, de la mort de quelqu'un qui est différent de tous les autres. Parce que, comme je l'ai dit, quelles que soient les ambitions à réaliser, les motivations, jusqu'à faire le sacrifice de sa propre existence, en tous les cas, une chose qui est certaine, et toute la Bible est là pour nous le confirmer, et depuis 20 siècles, plus de 20 siècles, le message reste le même, c'est que Jésus n'est pas mort pour lui. Il n'est pas mort pour une idéologie ou une pensée particulière à caractère humain. Mais Jésus est mort, pour les autres, c'est vrai, mais il est mort à la différence, c'est que lui ne pouvait pas mourir. Il ne pouvait pas mourir pour la bonne raison que, quand on connaît ce qu'il y a derrière la personne de Jésus, le caractère divin de Jésus, ce qu'on appellera sa divinité, Jésus ne pouvait pas mourir puisqu'il était sans péché. Or, la Bible nous dit d'une manière très claire que le péché, c'est ce qui donne la mort. Or là, nous voyons que Jésus est venu et dans cette volonté exprimée ou répondant à la volonté de Dieu de mourir à la place des autres et non pas de quelques-uns, mais du monde entier, alors nous comprenons que ces paroles, et elles font poids, elles ont une puissance en elles-mêmes, parce que ce sont les propres paroles que Christ aurait finalement répudié du temps de Jérémie, et annonçant aux Juifs que un Messie viendrait, un Messie pour les Juifs, et que sa douleur serait indicible, que sa douleur serait incommensurable, parce qu'il allait porter à ce moment-là, comme Paul le dira, le péché du monde entier, les fautes, toute la méchanceté du monde, toute la condamnation du monde, l'enfer du monde, nous pourrions dire. Alors, c'est vrai que, à travers cette élévation sur la croix, c'est une forme de prédication, c'est une forme d'invitation, de proclamation, nous pourrions dire, devant le monde entier, où nous trouvons ces paroles, « Je m'adresse à vous, vous tous qui passez ici. » Voilà. Et ce n'est pas seulement nous arrêter au symbole d'une croix, parce qu'il y en a des milliers dans notre monde d'obédience chrétienne. Il y en a des milliers de croix. Il y en a dans les maisons, il y en a dans les cimetières, il y en a sur le bord des routes, il y en a partout. Il y en a finalement, en effigie, autour du cou des hommes et des femmes. Des croix, il y en a partout, c'est le symbole, c'est sûr, de ce que Jésus a accompli. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est parce qu'il faut bien se souvenir que la croix, c'est pas quelque chose à adorer. C'est un symbole de mort, la croix. C'est un symbole de condamnation. Et ça n'a rien à voir avec, finalement, ce que les hommes en font aujourd'hui. Puisque c'est un message. Et quelque part, je pense que ça devrait parler encore au monde de notre temps, où on est beaucoup plus enclin à exprimer une certaine croyance dans une culture chrétienne que dans une réalité profonde, une compréhension profonde de ce pourquoi Jésus est venu sur la terre pour mourir pour les hommes et pour qu'ils soient sauvés. Alors, ça change tout, hein. Je regardais les informations aujourd'hui, pendant cette semaine, que certains appellent la semaine sainte. Alors, tout est mélangé pêle-mêle. Il y a de la tradition, il y a du folklore, il y a des recettes de cuisine. Il y a toutes sortes de choses, et je me dis, mais qu'est-ce qu'on est loin de l'Évangile ? Et je me disais à moi-même, ou je partageais avec mon épouse, je me dis, mais est-ce qu'il ne serait pas plus simple que notre temps, que notre monde d'aujourd'hui, revienne tout simplement eh bien, à la lecture, bien, tout simplement là, de l'Évangile de Matthieu, de Marc. Si ça ne vous suffit pas, vous pouvez aller dans Luc. Si ça ne vous convient pas encore, vous prenez Jean, et vous aurez la même histoire. Et qu'est-ce que les gens ont fait finalement, eh bien, de ce grand moment de Dieu? Parce que c'est un moment de souffrance, c'est un moment de peine, c'est un moment de désarroi. Parce que celui qui va mourir ne meurt pas pour lui, il meurt pour les autres, qui eux devaient mourir. Mais en raison finalement de ce sacrifice, et à partir du moment où l'homme s'approprie dans la foi, mais une foi réelle, ce que Jésus accomplit, alors à ce moment-là, ces hommes-là ne vont pas mourir. C'est ce que Jésus dira finalement avant de monter à Golgotha dans cette rencontre touchante avec deux sœurs dans le village de Béthanie. L'une s'appelle Marie, l'autre Marthe, et Jésus dira, à une occasion aussi d'une profonde tristesse, parce que leur frère Lazare vient de mourir. Et Jésus affirmera, il dira, mais finalement, celui qui croit, celui qui vit en moi, ne mourra jamais. Vous vous rendez compte de ce que ça peut représenter? Mais peut-être qu'on ne parle pas de la même mort. Parce qu'il y a la mort physique, mais il y en a une deuxième, qui est souvent méconnue, qui est souvent absente des consciences et de la pensée des hommes, c'est la seconde, qui est une mort morale et qui est une mort spirituelle. Or, je voudrais dire que, quelque part, Jésus eh bien, a englobé ces deux formes de mort, la mort physique à travers la résurrection, et puis la mort morale et la mort spirituelle, pour nous dire que il y a là une destination tout à fait particulière pour le croyant. C'est-à-dire que cette destination sera le royaume des cieux, en partage avec Jésus-Christ, et là, ça n'aura rien à voir avec la terre. Et ça n'aura rien à voir avec cette autre destination que l'on appelle la Géhenne ou l'enfer, si vous voulez. C'est un mot qui n'est pas écrit dans la Bible, le mot enfer. Hein. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, que quand on comprend bien ce que veut dire l'un ou l'autre des destinations, il y a d'une part le bonheur éternel, la félicité, dans la présence de Dieu, où il n'y aura rien de comparable avec notre vie terrestre, qui n'est faite que de souffrances, de malheurs et toutes sortes de choses, qui est la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est la vie. La présence de Dieu, c'est la réalisation et l'épanouissement, finalement, de ce pourquoi nous avons été créés. Et puis, son contraire, c'est l'absence de Dieu. Et l'absence de Dieu, c'est les ténèbres. C'est la solitude à jamais, c'est la perdition, comme Jésus l'enseigne. Et tout cela, eh bien, c'est ce que nous trouvons dans l'Évangile. Alors, puisque nous sommes dans cette période de Pâques, alors il faut revenir véritablement au vrai sens. Et je crois que rien de tel que d'ouvrir tout à nouveau notre Bible et de prendre en considération ce que Jésus a accompli pour chacun d'entre nous. Alors vous tous qui passez ici, vous tous qui prenez en considération eh bien, ces paroles, eh bien, je voudrais vous dire, je m'adresse à vous. Et regardez et voyez s'il est une douleur semblable à ma douleur. Alors on va la découvrir. Et on va voir que Jésus n'a pas fait l'impasse et n'a pas reculé devant ces douleurs que nous pourrions qualifier d'indicibles, non pas uniquement pour le monde entier, mais je crois que le message s'adresse à chacun en particulier, c'est-à-dire pour vous, pour moi-même. Et ça, c'est le fondement essentiel, eh bien, du salut en Dieu, de la vie éternelle. Et nous avons repris ce texte, arrivé au lieu nommé Golgotha, qui se trouve à Jérusalem, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Ce qui est extraordinaire, c'est la cohérence des textes bibliques. Parce que on s'aperçoit que nous avons pris un passage qui était donné par le prophète Jérémie, alors 500 ans avant la venue de Jésus. Nous retrouvons des recoupements et des prophéties ou des prédictions qui ont été données par le prophète Ésaïe, 53 par exemple. Mais il y a un texte qui est assez extraordinaire et on va le retrouver. Je voudrais le lire. Parce que lire la Bible, la partager ensemble, eh bien, c'est un véritable trésor de compréhension. Parce que la Bible s'explique par elle-même. Et on n'a pas besoin de chercher ailleurs. On n'a pas besoin de grandes théologies extérieures pour comprendre. Et il y a un prophète d'un temps très ancien qui s'appelait David. Parce que je voudrais vous dire que David était roi d'Israël, mais il était prophète. Et c'est justement ce qui nous est dit un petit peu plus tard. On va revenir. Et écoutez bien le psaume 22. Une partie du psaume 22. Quand il est dit ceci, psaume de David. Et vous allez retrouver exactement dans ses paroles prophétiques ce que Jésus a accompli. Et il faut se souvenir que David vivait environ 800 à 900 ans avant la venue de Jésus. Et c'est ça justement ce qui fait la force. Et ce qui fait la puissance de l'évangile, c'est que c'est une parole qui traverse le temps. C'est une parole qui traverse le temps et qui marque le temps. Et si nous considérons ce que Dieu nous dit à travers aussi une autre parole, quand Dieu dit, eh bien, que ma parole ne retournera pas à moi sans avoir accompli tous ses effets. Et nous le voyons. Alors écoutez, verset 2, chapitre psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter ma plainte? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. On y retrouve finalement, eh bien là, toute l'empreinte de la personne de Christ à la croix du calvaire. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, ils secouent la tête. Alors recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le délivrera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sécurité dans les mamelles ou sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire qui se fond dans mes entrailles. Ma force dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent et me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Alors regardez et voyez s'il est une douleur semblable à ma douleur. On peut revenir finalement à ce texte. Et nous prenons en considération que combien Jésus a dû souffrir, a dû connaître cette peine immense. Non pas, et je le rappelle, pour lui-même, mais pour chacun d'entre nous. Et nous le voyons là, sous différents aspects présentés par Matthieu, où nous reconnaissons, eh bien, à la fois ce dépouillement, cette humiliation, cette indignation. Et nous voyons aussi le monde entier autour de ce mont Golgotha, ce jour-là, à ce moment-là, vociférant, hurlant, manifestant, eh bien, tout simplement, cette rage de détruire. Alors que le monde d'alors, comme il l'est encore aujourd'hui, était complètement dans l'ignorance de ce que Jésus faisait. Il le faisait pas pour lui, il le faisait pour eux. Il le fait encore aussi pour nous aujourd'hui. Et c'est terrible, hein, quand vous voulez sauver les gens et qu'ils ne le veulent pas. C'est terrible. On en sait quelque chose lorsque nous voyons des gens dans la souffrance, dans la maladie ou dans quelconque autre infortune de l'existence. Et de leur dire, mais si vous vouliez simplement faire ce petit effort de croire que Jésus-Christ, il est vivant, qu'il est ressuscité, mettez votre foi, écoutez sa parole. Et on voit avec quelle vigueur les gens repoussent. Et ce jour-là, Jérusalem, eh bien, tout est bon pour finalement mettre le comble au péché de l'humanité en tuant, en détruisant celui qui leur avait été destiné pour les sauver. Ça, c'est terrible. Alors, on le voit, à travers ces moqueries, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Est-ce que c'était une boisson pour quelqu'un qui vivait ces instants? C'était ajouté, finalement, et bien déjà, à toute cette horreur, et bien quelque chose qui était encore plus horrible. Et vous savez, le fiel, c'est quelque chose d'impossible, tant l'amertume est grande, et ça nous parle de l'amertume du Christ, parce que la mort est toujours amère. Parce que finalement, ce genre de choses, c'est quelque chose d'impossible à concevoir. Alors il l'eut goûté, mais il n'a pas voulu boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète c'est David, que nous avons lu dans le psaume, tout simplement 22. Et nous voyons les hommes s'asseoir. Ouais. Ils ne se précipitent pas vers Jésus. Ils ne courent pas vers Jésus. Ils ne courent pas après Jésus. Comme il y a un temps où Jésus entraînait des foules, parce qu'il faisait des miracles, parce qu'il y avait toutes sortes de choses. Mais là, ça ne les intéresse plus. Alors ils s'assoient et ils le gardent, tout simplement. Ils étaient préposés à cela, d'ailleurs. Et pour indiquer de quelle condamnation, on écrivait au-dessus de sa tête, « Celui-ci est le roi des Juifs ». Mais Jésus n'est pas seulement le roi des Juifs, bien que lui-même soit juif. Mais si nous lisons la parole de Dieu et que nous entrevoyons un petit peu toute la souveraineté et la dimension finalement de ce à quoi Jésus a été appelé, c'est que non seulement il n'est pas le roi des Juifs, mais il est le roi des rois. Et il est le Seigneur des Seigneurs. Il a été élevé en dignité. Et si nous lisons et que nous prenons par exemple l'Épître aux Romains, il nous est dit que Jésus a souffert le supplice et le martyr en vue de la joie qui lui était réservée. Oui. Et quelle était cette joie? De voir des hommes, des femmes, qui contre toutes les apparences croiraient en lui dans tous les temps jusqu'à nous, depuis 2000 ans, et qui seraient la récompense de son sacrifice, qui seraient en quelque sorte le prix et la valeur de ce pourquoi il est mort. Parce que le sacrifice de Jésus n'a pas été vain, il est peut-être vain pour, malheureusement et hélas, pour des millions de personnes, mais on s'aperçoit que s'il y a quelque chose qui a subsisté à travers les temps et les siècles, alors que toutes les grandes armées, alors que tous les grands empires, que toutes les grandes civilisations se sont effondrées les unes après les autres, une chose qui est certaine, c'est que le christianisme de l'Évangile, eh bien, est resté et a traversé les temps, puisque ça fait 2000 ans qu'on en parle, et ça fait 2000 ans qu'il subsiste, et on en parle encore aujourd'hui. Et tant que le Seigneur ne sera pas revenu pour enlever son Église, eh bien, on en parlera encore. C'est ça, justement, le mystère de la croix. Parce que ce n'est pas une œuvre humaine, mais c'est une œuvre de Dieu, une œuvre de salut pour sauver les hommes. Alors, on ne l'appelait que le roi des Juifs. Et c'était quelque chose de très ambigu, parce que dire dans une société comme la société d'Israël, il est le roi des Juifs, c'était finalement le mettre en accusation d'être un rival de César, puisque la Palestine était finalement occupé par l'Empire romain. Mais c'était pour accentuer finalement, eh bien, et donner raison à cette condamnation. Si on le condamne, c'est parce qu'il est le roi des Juifs. On n'a pas le droit de se faire le roi des Juifs, puisqu'il n'y a plus de roi. Enfin, ou autrement, on se fait rival de César. Tout ça a été fait pour augmenter la peine et augmenter les raisons de la condamnation de Jésus. Et puis voilà le moment ultime où Jésus va rendre tout simplement son esprit à Dieu. Il y a un phénomène qui va se passer depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, c'est-à-dire, eh bien là, de midi à 3 heures de l'après-midi. Ça c'est la tradition, mais c'est aussi vérifiable. Il nous est dit qu'il y eut des ténèbres sur toute la terre. Ouais. C'est comme si à ce moment-là, le prince de la vie, le prince de la lumière, celui qui se fera appeler dans le livre de l'Apocalypse la brillante étoile du matin, c'est comme si en se livrant à la mort, eh bien c'est toute l'humanité qui était enfermée dans l'obscurité. Les ténèbres se sont appesanties sur la terre entière. Ça devait être quelque chose de redoutable, parce qu'une éclipse, ça ne dure jamais ce temps-là, hein. Quelques minutes au grand maximum. Mais là, il y avait quand même quelque chose, et ça a dû être une interpellation pour les hommes de cette époque. Ils se sont dit, mais 3 heures, ténèbres, oui. Si nous entendons ce que Jésus nous laisse pensée. À un moment donné, juste avant la crucifixion, juste avant qu'il soit condamné et qu'il soit mis à mort, il dira, lorsqu'il va être livré par Judas, lorsqu'il va être pris, je crois, au sortir du jardin de Gethsémané, il dira, voici l'heure des ténèbres. Et à ce moment-là, ce que nous pouvons deviner à travers les lignes et à travers ce qui nous est dit dans ce verset 45, c'est qu'il semblerait que ça soit en apparence une défaite pour Dieu et son Christ, parce qu'il va mourir, et il semblerait que ce soit plutôt à l'inverse le triomphe du diable, parce que lui, quand il se manifeste toujours dans les ténèbres. Et il a pu certainement penser quelques instants qu'il avait triomphé, qu'il avait vaincu finalement le bien et la lumière. C'est pourquoi il y a eu ces ténèbres. Peut-être pour montrer à l'humanité que elles avaient vraiment besoin d'un sauveur, et que ce sauveur, ils étaient précisément en train de le condamner et de le faire disparaître. C'est horrible et c'est terrible. Mais ça, c'est l'aveuglement du monde. C'est l'entendement des hommes qui ne peut pas s'ouvrir si véritablement il n'y a pas une action de Dieu. Et puis surtout, l'amour de la vérité, le besoin de vérité. Alors, ces ténèbres se sont appesanties sur la terre. Et vers la 9e heure, Jésus a parlé. Il a donné 7 paroles, que l'on a appelées les 7 paroles de la croix, dont une que vous connaissez, que j'avais citée il y a peu de temps. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Voilà. Ça, c'est sûr que nous avions apporté un commentaire sur cette parole, je n'y reviens pas. Mais toujours est-il qu'il va parler à un moment donné, en voici une des 7. Jésus s'écria d'une voix forte, probablement pour qu'il soit entendu de tout le monde, avec le peu de force qui lui restait, le peu d'énergie, le peu de souffle. Parce que, il faut pas s'imaginer, mais la croix, c'est un supplice terrible. Et le supplicié, le condamné, ne meurt pas seulement au bout de son sang parce qu'on lui a percé les mains, les pieds, le côté, mais c'est une mort par suffocation. Et ça peut durer des heures et des heures. C'était un ancien supplice que pratiquaient les Babyloniens, tous ces peuples de la Mésopotamie dans l'Antiquité, qui avait été repris aussi par les Romains, et qui était finalement le châtiment pour les criminels et les esclaves qui s'enfuyaient de chez leur maître. Ça, c'était quelque chose d'horrible. Parce que quelquefois, on pourrait s'imaginer que, bon, ça peut durer que quelques heures, mais même si ça dure peu, quelques heures. Certains commentateurs disent que certains crucifiés sont restés sur la croix vivants ou agonisants pendant plusieurs jours, imaginez-vous. Et à un moment donné, eh bien, il y a là, par le poids du corps et par les déchirures de la chair et par toutes sortes de phénomènes physiologiques qui se passent, eh bien, à un moment ou à un autre, une mort par asphyxie. Et c'est horrible, certainement une des morts les plus horribles. Alors il dira ceci, je le traduis tout simplement, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous avez remarqué que c'est exactement l'introduction de ce que David dira prophétiquement lorsque loin de l'Éternel, c'est-à-dire le Messie d'Israël, le Sauveur des hommes, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne me réponds plus, me réponds pas la nuit, je n'ai point de repos. Et pourtant tu es le Saint. » C'est comme s'il y avait à ce moment-là, on a parlé des ténèbres, mais c'est comme s'il y avait un voile qui se faisait entre Dieu le Père et son Fils sur la terre. Comme si la relation était brisée. Et de fait, elle est brisée. Elle n'est pas brisée pour lui. Elle est brisée pour nous, montrer tout ce qu'il peut y avoir d'affreux et d'horrible, d'innommable dans le péché des hommes. Oui, dans le livre d'Habacuc, il nous est dit que les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le mal. Or, Jésus, souligné par Paul, nous dit que Christ a pris les péchés du monde entier sur lui. Il s'est fait pécher lui-même pour que nous soyons absous, que nous soyons délivrés. C'est ça, justement. La Pâque, c'est ce message. Alors, mon Dieu, c'est comme s'il y avait cette séparation. Mais est-ce que réellement Dieu a abandonné Christ ? Oui, il l'abandonne pour quelques instants. Parce qu'à ce moment-là, les yeux de Dieu, qui sont trop purs, comme je le disais, pour voir le mal, eh bien, Jésus va accumuler sur lui-même, sur sa personne, sur sa vie, à ce moment-là, eh bien, toute l'histoire de l'humanité dans ses révoltes, dans ses provocations, dans ses souillures, dans ses sacrilèges, dans ses abominations, dans tout ce qu'il peut y avoir, eh bien, de terrible et contraire à la sainteté. Alors à ce moment-là, eh bien, Dieu se détourne. Et Christ sent cette solitude. J'ai été abandonné. Christ est abandonné dans ce désert affreux. Alors, constatation, quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Voyez comment les gens interprètent les choses. Comment les gens, Élie, Élie, labastabastami. Voilà. Donc, la compréhension des choses. Et aujourd'hui, chacun y va avec sa compréhension de la mort de Christ, du pourquoi de la mort de Christ, le comment, bon, on l'a devant les yeux et on l'a lu ensemble, mais le pourquoi. Chacun y mettra un petit peu ce qu'il y voudra dedans. Mais c'est pas d'y mettre ce que l'on veut, c'est de considérer que la Bible nous donne tout simplement ce qui est nécessaire pour que nous puissions prendre conscience, eh bien, de notre misère et que Jésus a donné finalement sa vie à notre place, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et sans son sacrifice, il n'y a rien à faire. Alors, aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Voilà, deuxième tentative. Est-ce que c'était un geste de commisération, de compassion? Mais les autres disaient, mais laisse-le, voyons si Élie viendra le sauver. Alors il y a toujours de plus endurci que d'autres, hein, naturellement. Et puis là, nous voyons que Jésus est au terme, prématurément, parce que il va mourir très rapidement par rapport à ses compagnons qui sont à droite et à gauche. Et à ce moment-là, il nous est dit que Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Ce qui m'a toujours surpris dans la manière dont les gens interprètent la mort, on parle souvent de l'âme. Je l'ai entendu très très souvent en ce qui me concerne. Quand quelqu'un décède, il a rendu son âme à Dieu. Mais c'est pas ça. Le texte en fait foi. Il a rendu son esprit à Dieu. Ça, c'est différent. Parce que Dieu est esprit. Et il nous a doté, il nous a donné un esprit, bien que nous ayons une âme. Ça, c'est sûr. Mais ce qui est le plus important, c'est que cet esprit que Dieu nous a donné retourne à celui qui l'a créé et celui qui nous l'a finalement, eh bien, consenti. Et nous voyons que Jésus, à ce moment-là, poussa un grand cri. C'était le cri des agonisants, naturellement, de celui qui va partir. Il a rendu l'esprit. Il y a une parole également qui ne nous est pas donnée, mais qui est formulée dans Luc, dans l'évangile de Luc. Jésus dira avant, justement, de rendre l'esprit à son Père. Il dira, mais tout est accompli. Et ce qui est extraordinaire, ce que nous avons à prendre en considération, et je le disais tout à l'heure au début de ce message, c'est que ce qui est étonnant, non je dirais, ce qui est merveilleux, c'est que comme Jésus le confirmera à un moment ou à un autre quand il parlera de la parole de Dieu, il dira, mais il ne se passera pas un iota qui ne disparaisse. Et on s'aperçoit que dans les moindres détails, eh bien tout a été accompli. Et quand on voit que la résilience des hommes essaie de faire ce que Christ a fait, ou de contrefaire ce que Christ a fait par des mérites, par des efforts, essayer de monter au ciel, alors que c'est pas à nous de monter au ciel, c'est le ciel qui est descendu vers nous, à travers la personne de Christ, à travers toutes sortes d'obligations, de lois, de rudiments, de préceptes, enfin de commandements, toutes sortes de choses. Mais ça, il faut bien se dire que c'est inutile, puisque Jésus nous a dit que tout était accompli, nous n'avons plus qu'une chose à faire, une chose qui est dans la possibilité de tous les hommes, que ce soit le savant ou l'ignorant, que ce soit le civilisé ou le sauvage, peu importe, quel que soit, c'est que nous avons tous la possibilité de croire. Et on ne peut pas s'excuser de dire « je ne peux pas croire », parce que celui qui veut croire, peut croire. Ça, c'est une chose qui nous est donnée en propre. Et je pense que dans tout cela, eh bien, nous avons besoin de prendre toute la mesure. Et c'est vrai que cette parole que nous avons lue en premier, quand il est dit, mais je m'adresse à vous, vous tous qui passez ici, et devant ce que peut représenter la croix, devant ce que peut représenter la passion de Christ, devant ce que peut représenter ce que nous comprenons à travers la lecture de la Bible, à travers les temps qui ont passé, à travers cette survivance de ce message, de ne pas en faire une tradition, mais d'en faire quelque chose de réel et de vivant pour toutes les générations qui se succèdent les uns les autres. Alors, Cette parole pourrait vraiment être dans la bouche de Jésus encore aujourd'hui, mais je m'adresse à vous, vous tous qui passez ici. Vous savez, c'est une chance, et plus qu'une chance, c'est une grâce que Dieu nous a donnée de pouvoir comprendre la signification profonde de ce texte. Parce que c'est en cela que nous pouvons être sauvés, uniquement parce que nous faisons confiance à ce qu'il nous a dit. Alors vous pouvez regarder, vous pouvez voir s'il est une douleur pareille à ma douleur, à celle dont j'ai été frappé. Et je crois que, à travers tout cela, eh bien, les hommes d'aujourd'hui, et nous avons besoin de prier pour notre temps, nous avons besoin de prier pour notre monde, parce qu'on s'aperçoit que il y a de plus en plus de désaffection de la foi en Christ. Il y a de plus en plus d'ignorance, ou de méconnaissance, ou d'indifférence, ou de rejet. Eh bien, de cette parole qui nous est laissée, pour que tout à nouveau, eh bien, les hommes puissent être saisis d'un esprit de supplication et se tourner vers Dieu en disant, « Mais Seigneur, c'est réellement pour moi que tu es mort, et je le crois de tout mon cœur. Je veux être sauvé, je veux croire, aide-moi à croire !» Il y a souvent les barrières du préjugé, préjugé religieux, la barrière peut-être de toutes sortes de choses qui peuvent s'élever dans notre cœur, du raisonnement, du sentiment, de tous ces contretemps qui peuvent arriver, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que si nous nous approchons et que nous revenons à l'Évangile, et si nous voulons chercher Christ à travers toutes les pages de la Bible, que ce soit du livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, toutes les pages, nous parlerons de ce point central, de ce lieu commun qui rassemble toute l'histoire de l'humanité autour de la passion de Christ et de ce que Jésus a fait. Mais nous pourrions parler justement de cela, mais ça ne s'arrête pas là, puisque nous savons que quand Jésus est mort, il n'est pas resté mort, à la différence de tous les autres hommes qui meurent. Il n'est pas resté mort, et c'est ça justement Pâques. C'est ça Pâques. Il est mort, pourquoi ? Nous le savons maintenant. Mais Dieu a donné la manifestation de sa puissance, de sa divinité, en ressuscitant Jésus d'entre les morts, ce qui fait que pour aujourd'hui, les croyants réels, profonds, ceux qui s'appuient sur la parole de Dieu, nous nous adressons plus à un crucifié, nous adressons à un Christ, certes, mais ressuscité, donc vivant, et nous pouvons l'invoquer, il nous entend, nous pouvons nous approcher de lui, et il manifeste sa présence. Nous pouvons lui demander tout ce dont nous avons besoin dans notre vie d'homme, dans notre foi, dans notre vie morale et spirituelle. C'est un Dieu qui répond, « Oui, Seigneur, je te rends grâce, je te remercie, parce que tu as accompli cela pour nous, tu as accompli cela pour moi. » Et ce soir, simplement dans une simple prière, nous voulons prier, nous voulons demander à Dieu qu'il convainc au-delà des paroles et par la puissance de son Saint-Esprit, qu'il nous convainc, et bien que tout cela, c'est une parole, qui est, comme le dit le livre de l'Apocalypse, c'est une parole qui est certaine et véritable. Alors que Dieu nous bénisse ce soir, que Dieu nous donne sa grâce. Nous allons prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que, c'est vrai, Père éternel, tous ceux qui sont passés ici, tous ceux qui sont passés par là, et nous croyons que le chemin, Seigneur, des hommes, sur toute la surface de la terre, passe à un moment ou à un autre, en effet, Seigneur, par... Eh bien, tout simplement, une pensée au fond des cœurs, que l'on appellera la pensée de l'éternité, et pour nous montrer que Dieu a résolu le problème de la perdition, que Dieu a résolu le problème, en effet, de la misère humaine, de la désespérance, Seigneur, de cette humanité pécheresse, parce que nous savons qu'à un moment ou un autre, eh bien, il y a la pensée d'un Sauveur qui est venu sur cette terre pour payer à la place des hommes, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous voulons te rendre grâce et te remercier, parce que tu as souffert pour nous, tu as souffert pour moi, et moi je le crois. Oui, Seigneur, et tu l'as fait pour que je ne souffre pas. Tu l'as fait pour que je ne souffre plus. En tous les cas, que je ne souffre plus, Seigneur, éternellement, puisque la condamnation liée, en effet, à l'état, eh bien, de perdition des hommes, a fait que nous ne pouvions pas accéder, Seigneur, à cette dimension supérieure, dans laquelle, Seigneur, eh bien, tu prends les hommes pour leur donner véritablement, Seigneur, la destination finale, celle à laquelle tu les avais conçus, créés, c'est-à-dire la dimension du ciel. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci Seigneur, parce que j'ai bien compris ce soir que ce n'est pas à moi de monter au ciel, mais que quelqu'un en est descendu pour me montrer le chemin. Et nous voulons, Seigneur, te rendre grâce et te remercier parce que ce n'est pas avec mes forces, mes propres mérites et mes efforts, mais c'est tout simplement par la foi. Alors merci Jésus de nous avoir donné la foi non pas dans un système, dans une religion, dans une façon de faire, de méthode, mais la foi, Seigneur, en Christ, parce que non seulement il est mort, mais il est ressuscité, donc il est vivant. Merci Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.